Bien, bon, tout d'abord, merci d'être venu. C'est un plaisir de retrouver quelques amis, quelques connaissances plus lointaines et professionnelles. Un grand plaisir, n'est-ce pas, Monsieur Baleineau? Merci à l'agence d'être venu. On n'a pas beaucoup de vie ce soir. Et puis, je voudrais surtout remercier aussi Yves Dauge, qui a fait un texte. Je peux passer là. Voilà. Qui a appuyé notre marche, qui avait été lui aussi assez ému par la destruction de la Tour Valois. Donc, il a fait ça. Alors, malheureusement, il avait prévu de venir ce soir pour des raisons à la fois de santé et de canicule. Ce n'était pas raisonnable. Donc, on pense beaucoup à lui. Et je remercie encore beaucoup. Donc, merci à la Maison de l'Architecture. Elke Wittmann, hein, qui est la directrice de la Maison de l'architecture, qui est professeure dans des grandes écoles d'architecture par ailleurs. Et merci à Cléo, hein, qui nous a organisé cette soirée aussi. Et on va partager un petit peu avec notre ami Xavier Guillon. Cette présentation et de revenir un petit peu sur cette histoire qui nous a émus, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls. Voilà. Donc je vais laisser Elke présenter tout ça.
Merci beaucoup Jean-Yves et merci à la chapelle Saint-Libert de nous accueillir pour la je ne sais pas combien de fois. Donc on a déjà fréquenté cet endroit avec grand plaisir à plusieurs reprises. Donc je suis aussi très contente qu'on peut aborder plusieurs choses aujourd'hui, à la fois en fait une thématique qui nous a occupés pendant un certain nombre de temps et aussi une publication qui sort en même temps. Donc on est très ravis de faire cette présentation. Donc peut-être d'abord quelques mots pour la Maison de l'architecture et du paysage Centre-Val de Loire. Donc on est installé à Orléans, mais on agit sur tout le territoire de la région Centre-Val de Loire, autour de l'architecture contemporaine, mais aussi de l'architecture récente. On travaille sur le label architecture contemporaine remarquable et qu'on regrette que voilà, l'Observatoire n'a pas pu être labellisé à temps, on va dire. Et puis, on a une riche activité et que je peux juste vous inviter, si par hasard vous passez par notre feuille d'adhésion, de regarder peut-être si ça pourrait vous intéresser. Voilà. Alors, quand il y a à peu près 6 ou 7 mois que nous avons parlé sur la conception d'un ouvrage, mais la destruction de l'Observatoire, ça nous occupe, en tout cas, surtout Jean-Yves et moi, un petit peu en périphérie, presque depuis 2 ans, non, 1 an et demi à peu près. Donc, et depuis, c'est venu l'idée, en fait, non seulement de parler autour d'un objet disparu, mais aussi de dire ou de réfléchir qu'est-ce que c'est cette architecture contemporaine dans un milieu sensible qui, le Val de Loire, classé aussi au titre de patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc, je vais peut-être vous faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que moi je trouve que c'est cette œuvre de Jean-Yves qui est conçue en 1990 et qui a été montrée, pas en réalité, mais sous la forme d'une photo à la Biennale d'architecture de Venise en 1991 dans le cadre d'une exposition qui présentait 40 jeunes architectes français au monde, à Venise. Et peut-être juste un clin d'œil, si vous avez vu l'article aujourd'hui dans la République du Centre, le pavillon n'était pas construit à Venise puis rapporté ici, mais ça crée des mythes, et ça, je trouve, c'est super si des journalistes se trompent, pour rendre quelque chose encore plus important. Donc, je trouvais que c'était une bonne manière d'introduire au public plus large cet objet. Donc, c'est un ouvrage d'art construit en métal et en verre qui, en fait, avait une double fonction, à la fois une sorte de belvédère, mais aussi de mettre en avant en fait un regard sur la loi, et puis donc de donner aussi lieu à une occupation par la maison de tourisme. Et en fait, l'objet est devenu un landmark. C'est quelque chose qui s'est fondé en même temps avec le paysage de Rochecorbon, si on peut dire ça comme ça. C'est à la fois une sorte de high-tech, comme on disait à l'époque, à la française, et c'est peut-être aussi pour ça que ça a été montré à la Biennale de Venise, mais c'est aussi quelque chose qui permet, par le fait d'être un tout petit peu désaxé, de axer le regard un peu plus sur ce paysage très à la fois poétique, mais aussi, comme on avait vu aujourd'hui, parce qu'on a fait une balade en bateau tout à l'heure, extrêmement varié, extrêmement riche, extrêmement aussi presque pictural, et c'est pas pour rien que Gerhard Richter ou Olivier Debré ont utilisé ce paysage pour la dimension picturale. Mais l'observatoire permet aussi de poser le regard sur en fait les différentes hauteurs que l'on pouvait auxquelles on pouvait accéder, et c'était en même temps un peu comme Bernard Schumé l'a fait avec le parc de la Villette à Paris, une sorte d'activateur d'espace, parce qu'on doit bouger, on doit en fait activer son corps pour monter, descendre, regarder. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement dynamique malgré son aspect bien sûr très solide et stable, et c'était pas juste une forme de contempler le beauté du paysage, mais proposer aussi par chaque mouvement du visiteur, une perception unique et individuelle. Donc chacun pouvait avoir son regard spécifique par rapport à la loi. Donc c'était un activateur finalement de regard vers la loi que chacun pouvait recevoir et chacun pouvait percevoir et expérimenter de manière individuelle. Et ça aussi, c'était, je trouve, une grande valeur de cet objet. Pour aussi, en même temps, par ses regards spécifiques, et d'activer le corps avec le regard pour mieux mémoriser ce qu'on a vu. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est à la fois de se recentrer un peu sur le contexte de cette création de cette œuvre, mais aussi pourquoi, en fait, il y a une publication qui a été faite sur la question d'un ouvrage qui est disparu et qu'on aurait quand même aimé de regarder plus longtemps. Avant de passer la parole à Jean-Yves et Xavier, peut-être quelques éléments biographiques. Bon, tout le monde se connaît ici, plus ou moins, mais j'aimerais quand même donner quelques éléments biographiques par rapport à Jean-Yves, avec lesquels on a travaillé pas mal ensemble sur un ouvrage que vous pouvez regarder sur les dernières presque 30 ans de sa création architecturale, qui remonte aux années 80, où il, en fait, à partir d'une démarche artistique, il développe en fait un regard à toutes les échelles de la création artistique, objet d'art, objet design, architecture, puis le design urbain aussi, la conception urbaine. Donc en fait, c'est une œuvre qui se correspond aussi à toutes les échelles. Et cette grande homogénéité qui est là, sur laquelle il travaille depuis, on va dire, le début des années 80, est quelque chose qui a évolué et qu'on voit en fait chaque décennie d'autres œuvres qui émergent et qui déclinent de manière très, très variée en fait cette déclinaison de toutes les échelles, avec une grande recherche sur les harmonies, sur des lignes qui se correspondent, sur des rappels, sur des dialogues, sur des insertions et sur des inventions comme en fait la ligne de TGV avec les ouvrages d'art, les logements collectifs sociaux au plus élaboré, les différentes objets qu'il a pu créer, de la maison individuelle au bâtiment de halles ou de de bâtiments culturels, de bâtiments sportifs. Je pense à la formidable halle de tennis à Rennes. Donc il y a toute cette œuvre qui est extrêmement riche et qui se réinvente à chaque instant, et que l'Observatoire de Rochecorbon était un moment spécifique dans la carrière, mais qui en fait voit sa suite encore aujourd'hui dans toutes les réflexions qu'il porte, qui renvoie aussi aux personnages qu'il a pu fréquenter, comme Jean Prouvé par exemple, ou d'autres concepteurs, architectes, techniciens, ingénieurs, mais aussi artistes comme Alexandre Calde. Donc il y a toute une mémoire qui l'a imprégnée et qui est encore existante et qui se réinvente aujourd'hui, encore et encore, si j'ose dire. Alors, Xavier est à l'origine de la Société des éditions Atmosphère, et qui est aujourd'hui aussi membre du comité éditorial. Il est, comme il dit, passionné d'architecture et d'urbanisme, et on lui doit un grand merci, parce que sinon cet ouvrage n'aurait pas peut-être vu le jour. Et il aime ses espaces, s'y promener, s'y balader, mieux les comprendre, interpréter ces lieux, leur donner la sonorité nécessaire, dire ce qu'ils paraissent être ou ce qu'ils cachent, sans déformer leur réalité intrinsèque. À travers de l'association des Amis de la Prairie, il est aussi le créateur de l'événement Les Journées des Livres qui font paysage, qui vient de fêter cette année sa 4e édition. 2 journées d'échange et de rencontres entre professionnels, amateurs du paysage et de l'architecture. Elle est auteur de plusieurs ouvrages qui évoquent les pays actes, schémas, histoire délimitée, l'invention d'un paysage entre 2018 et 2019, et ces mots qui font paysage tout récent, 2022. Et puis, voici brièvement résumé une courte biographie de ce personnage aux compétences multiples. Merci d'être là, et je vais donc passer la parole à Jean-Yves.
Alors, notre ami Xavier, on a eu l'occasion d'échanger, on va pouvoir passer peut-être après les images. On avait eu l'occasion d'échanger effectivement sur cette édition. Et moi j'étais évidemment surpris, concerné, j'ai dit. Lui il était surpris de ma consternation, complètement surpris, parce qu'il va nous le dire après, mais je crois qu'il aimait bien cet ouvrage et qu'il a aussi un lien avec la Loire de par son enfance, ou ça comme moi d'ailleurs, c'est comme ça. Mais il s'est trouvé que j'avais eu des échos, hein, qu'il y avait des projets, tout ça, donc enfin, rien de vraiment très, très, très sérieux. Et puis, il s'est trouvé que dans le cadre du festival Archipel, là, je vois Annie qui faisait partie aussi, dans le cadre du festival Archipel, c'était en 2024, il y avait la volonté de parler de l'architecture. Donc il y a un parcours qui avait été fait sur mon travail, qui partait depuis le pont du TGV, en passant par Saint-Pierre-des-Corps, la bibliothèque, donc l'Observatoire, la grande serre des jardins botaniques, et puis ça allait jusqu'au lien vertical à Chillon. Et c'est des voisins qui viennent me voir et qui me disent, écoute, on est passé à l'Observatoire, et il y a un panneau, tout métropole investi, et on a vu démolition de l'Observatoire et de l'Office du tourisme. Alors c'était marrant parce que l'Office du tourisme était déjà démoli depuis 2 ans. Et donc, cette démolition, elle était quand même un peu étonnante parce qu'il y avait ce panneau, et puis les équipes étaient déjà en place pour commencer, parce que la démolition, des barrières, tout ça. Donc, normalement, il y a quand même un délai de recours des tiers, ce qu'on appelle, donc c'est un peu bizarre. Bon, je ne suis pas prévenu, donc ça, bon, les architectes, évidemment, maintenant, voilà. Mais enfin, bon, il y a des procédures qu'il faut respecter. Et puis, il se trouve que je veux dire, dans les mêmes moments qu'on avance démolition, j'entends les premiers ministres éphémères qui commençaient à parler de la gabegie des collectivités locales, tout ça, etc. Et je me dis, ben là, quand même, il y a quand même un petit problème. On va mettre à la benne quelque chose qui coûterait 800 000. On a pris après, avec Xavier, les chiffres, les donnera, qu'il y avait eu 52 000 qui avaient été mis pour la démolition. Donc tout ça me paraissait, un peu curieux. Mais ce qui me paraissait aussi curieux, c'est qu'on est quand même à une époque, et je vois des confrères qui sont sensibles, où on prend le recyclage, hein, où on prend de la reconversion, on prend, etc. On est complètement dans ce qu'on appelle le développement durable, etc. Et de démolir ça alors qu'on récupère des chaises, par exemple, etc. Donc ça m'a quand même un petit peu, effectivement, complètement consterné. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que Xavier va parler peut-être de sa propre consternation.
Merci. Alors effectivement, bon, c'est en fin 2024, en octobre, que je découvre dans la presse que les derniers mois avant démolition de l'Observatoire. Bon. Je me dis peut-être que c'est une information pas tout à fait vérifiée, mais non. Donc, un petit peu plus tard, on se rencontre avec Jean-Yves, c'était à l'occasion d'une inauguration d'un bâtiment, d'une structure culturelle publique. Et en discutant un petit peu, comme Jean-Yves vient de le dire, je découvre sa consternation, et qui a accentué mon escagacement, comme on dit dans le Sud, en lui disant, ben, peut-être effectivement ce bâtiment n'est plus, mais nous allons l'inscrire au patrimoine immatériel par l'ouvrage que nous allons réaliser. Donc cet ouvrage, c'est une histoire, c'est aussi une histoire d'architecture, c'est une histoire... il n'a pas pour but de dénoncer les choses absolument, puisqu'en fait nous n'avons absolument pas de garantie sur comment ça s'est passé. Nous ne pouvons que supposer des choses, mais quand même avec des éléments quand même très récupérés précisément. Pourquoi cette Loire m'intéresse ? Ben parce que, comme disait Jean-Yves également, je l'ai pratiqué depuis mon enfance, depuis Orléans jusqu'à Tours, Blois y compris, et que pour moi c'est probablement, parce que je ne suis pas de cette région, c'est probablement la raison qui m'a fait rester ici, la Loire. Elle est tellement changeante, elle est sauvage, elle est sèche, elle est grande, elle est bruyante. Elle a toutes les conditions pour être aimée. Alors, puis ce bâtiment de l'Observatoire, comme j'habitais à Blois pendant un moment, je passais pour aller à l'université de Tours pour rencontrer M. Balédo, qui à l'époque était mon professeur de droit constitutionnel. Forcément, pour moi, ce bâtiment, moi qui aime la poésie, qui aime c'était un amer, ça, mais c'était un bâtiment c'était un navire. C'était un navire qui permettait effectivement de partir, de découvrir plus loin ce qu'est la Loire. Donc, évidemment, je connaissais le reste du travail de Jean-Yves, qui m'a passionné de plus en plus, surtout suite à des discussions longues et délicates. Savoir que l'architecture n'est pas simplement une structure. L'architecture, c'est tout un langage, c'est de la musique, c'est autre chose, etc. Donc, cette position au bord de la Loire de ce bâtiment, en face de la lanterne, enfin en contrepoint de la lanterne, franchement, pour moi, c'était avant que Rochecorbon entre dans la métropole, c'était déjà une entrée dans la ville-centre. C'était vraiment un amer qui permettait de dire « ça y est, j'arrive ». Donc voilà un petit peu l'histoire de pourquoi je me suis intéressé à ce bâtiment, pourquoi je m'intéresse à l'architecture de Jean-Yves maintenant bien plus passionnément qu'avant, parce que dans toutes ces écritures, il y a toujours effectivement le paysage qui s'inscrit, le paysage qui se dévoile, le paysage qui passe, le paysage qu'on rencontre. Voilà un petit peu le pourquoi, effectivement, donc j'ai accepté de faire cette édition. Comme je vous le disais, pour que ce bâtiment au moins reste dans notre esprit et dans notre futur. Il y aura bien des choses à dire encore, mais je vais repasser la parole à Elke, qui a nécessairement des choses à nous dire.
Merci beaucoup Xavier. Donc après cette on va dire première consternation qu'on a un peu tous vécu, parce que moi aussi quand j'ai visité avec Jean-Yves le bâtiment après avoir compris, enfin l'édifice après avoir compris que ça allait être détruit, on était un peu irrité de la manière comment ça se faisait. Mais peut-être là, on pouvait peut-être faire un retour, avant de parler sur ça, faire d'abord un retour sur cette commande particulière et cette réalisation spécifique d'un ouvrage d'art dans un contexte aussi sensible qui est le paysage de la Loire. Comment on travaille avec ce paysage aussi spécifique?
Alors, bon, on va peut-être parler quand même de la... de rappeler ça quand même, de parler de la commande, hein, parce que on est dans les années 90, on commence à s'intéresser à l'architecture, c'était une époque qui était assez formidable pour ça, les architectes, et j'avais été contacté par la ville, qui était surtout par l'adjoint, qui était M. Galato, qui m'a... demander si je pouvais réfléchir à la manière d'aménager la place du Croissant en disant voilà, on a des besoins vitaux, on a des sanitaires, il faut qu'on reçoive les VTT, il faut qu'on puisse promouvoir les produits locaux. Donc ça ne s'appelait pas un office de tourisme encore, hein, ça n'existait pas vraiment le terme. Hein, on parlait de maison quelquefois de tourisme, enfin voilà. Mais alors j'avais bien compris qu'à l'époque, ils attendaient moi pour une avis de ça, donc c'était un petit peu de cahier des charges. De base, si je peux dire comme à tout le temps, mais j'avais bien compris qu'il attendait de moi autre chose. J'allais faire les ouvrages que j'avais à Atlantique, j'avais eu des prix nationaux, enfin j'avais des trucs. Bon, et il disait il faut qu'il nous apporte quelque chose qui nous apporte une idée, quoi. Enfin, j'avais bien compris ça. Et pour moi, ce qui m'intéressait en réalité, c'était pas évidemment leur programme, c'était bien, mais ce qui m'intéressait, c'était justement ce qui était rappelé là, à l'instant, ce qui m'intéressait, c'est la Loire. Et comment ce rapport ici à la Loire, et puis cette inscription dans ce site et dans ce contrepoint dont on a déjà parlé avec la lanterne, comment ramener quelque chose qui soit aussi signifiant, et donc cette fois-ci en relation avec le fleuve. Alors, il y a quelque chose qui a complètement dynamisé l'idée à l'époque, c'est qu'il y a un nom qui m'est venu tout de suite. En disant, on va mettre un observatoire. C'est-à-dire, on fait ce que vous avez besoin, mais on va mettre un observatoire. Et l'observatoire, il est là pour observer la Loire. Donc je l'ai appelé l'Observatoire. Et c'est ce nom qui est resté, qui a été repris d'ailleurs par d'autres villes après, par d'autres communes. Et ça a convaincu pratiquement tout l'ensemble du conseil municipal. Je crois que tu avais relevé d'ailleurs
Justement, je parlerai après, vas-y, est-ce que tu les as relevés?
Ah ben, j'ai relevé, effectivement, vous avez devant vous la revue numéro 5 de la ville de Roche-Corbon, publiée en 1991, et déjà dans cette revue, tout était dit. Pour le maire de la commune, il fallait attirer l'attention des touristes et les inciter à s'arrêter. Il fallait édifier un bâtiment qui soit un point d'information, un bâtiment qui donnera à la commune une identité contemporaine en réponse à la lanterne. Dans la même revue, le premier adjoint ajoutait que le belvédère de l'Observatoire permettra de découvrir le site ligérien de Roche-Corbon, la falaise et la Loire, et que cet élément architectural justifie le nom d'Observatoire et constitue le pendant moderne de la lanterne. L'adjoint en charge des activités sportives ajoute lui que ce point d'accueil pour les randonneurs à vélo permettra aux pratiquants de cette discipline écologique de découvrir le site de Roche-Corbon Et l'adjoint chargé des bâtiments note que l'Observatoire sera la version moderniste de la lanterne, le phare de Rochecorbon, destiné à marquer l'entrée de la ville. Vous avez bien entendu, tout est dit. Il était souhaitable de le construire et peut-être de le protéger.
Voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'articles à l'époque qui ont été faits, hein, sur l'Observatoire. Et alors, il y en a un qui nous a beaucoup amusé, c'est celui du moniteur que vous avez ici à l'écran. C'est qu'il y a eu une faute d'orthographe, l'Observatoire. Donc, évidemment, c'est une coquille, je pense. Hein. Mais on a trouvé que c'était incroyable. Ce faire valoir, c'était un autre nom, faire valoir. Valoir, hein. Donc, on a trouvé que c'était extrêmement pertinent, alors qu'il semble que c'était. C'est des anecdotes comme ça, mais qui sont très drôles et qui redisent finalement beaucoup de choses.
Alors, est-ce que la dimension emblématique, ça te dit quelque chose, Xavier ?
Ah, l'emblème.
Oui, alors dans le un des articles de, je ne sais plus si c'était TV Tour, enfin à l'époque TVL, je ne sais plus comment on dit, mais le terme a été utilisé en plus lors de la démolition d'emblématique. L'emblématique Observatoire va bientôt être démolie. C'est quand même extraordinaire. On s'aperçoit que les gens s'intéressent effectivement à la chose. Donc, j'ai noté ce que voulait dire emblématique. Qui représente quelque chose de manière forte. On ne peut être plus clair. Mais si on revient même bien plus loin à l'origine du mot, lorsqu'il est dans notre langue au XVIe siècle, il veut dire aussi composé de pièces à porter. Alors, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important parce que. On a parlé de Yves Dauge et de la Loire et de sa vision de l'Observatoire. C'est quand même Yves Dauge qui a permis à la Loire d'avoir sa protection, son inscription au patrimoine de l'UNESCO. Et en fait, cette façon de dans ce qui doit être protégé dans la vision de l'UNESCO, c'est la Loire vivante. Celle qui était ancienne, celle qui est passée, celle qui est actuelle et celle qui sera demain. Et donc, encore une fois, l'Observatoire répondait à toutes ces qualités. Il était effectivement un élément de passage d'une époque à une autre. Et donc, il était bien, effectivement, c'était bien cette pièce à porter qu'il fallait ajouter pour que notre Loire soit pleine et entière. Voilà ce que j'entendais par emblématique.
Merci pour ce retour au XVIe siècle, parce que ça donne quelque chose lorsqu'on cherche la source étymologique. Très souvent, ça donne le sens juste. C'est ça qui est intéressant. Alors, si on va plus loin concernant en fait la réflexion de Jean-Yves que tu as eue avec la loi à plusieurs moments. On peut peut-être s'arrêter quelques instants sur la photo suivante.
Oui, alors, je veux dire, on parlait tout à l'heure du rapport à la Loire. Moi, j'ai vécu au bord de la Loire, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'étais très sensible, parce que j'avais un grand-père qui avait une maison à Angers. Et au bout de la rue, il y avait la Loire, juste au pont de Langer. Et j'allais avec lui, on allait à la pêche, tout ça, enfin, comme on faisait à l'époque. Et puis, c'était dans la période où j'ai commencé à peindre très tôt. Et j'aimais bien faire des aquarelles, et notamment des aquarelles du pont de Langer. Je ne l'ai pas vu à l'époque. Hein, alors, ça, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi les ponts me fascinaient. Je ne savais pas que je serais un jour architecte. Et je ne savais pas qu'un jour je ferais un pont moi-même sur la Loire, c'était assez amusant. Et puis il s'est trouvé que j'étais architecte, etc., tandis sur le TGVT et le TGV et tout, on a eu avec Sophie une maison à Caen de Saint-Martin, et donc on a fait construire un futreau, et on allait faire des promenades évidemment sur la Loire, on faisait de la navigation nous-mêmes un plus gros, comme on l'a vu tout à l'heure, mais un peu plus petit. Et puis, il s'est trouvé que quelques années après, avec Yves Dauge, et avec Fénac, j'ai rencontré notre ami Eric, on a travaillé sur le musée de la batellerie. Et le musée de la batellerie, il était là pour mettre en scène, si je puis dire, j'avais toute la scénographie, des maquettes de François Hérault, qui était surtout un batelier, qui était un ancien pilote de chasse, mais rien à voir, et qui faisait des maquettes absolument incroyables. Et on a fait un musée autour de ces maquettes. Mais on a aussi, c'était l'image précédente qui est passée, on a aussi reconstruit l'atelier de Brenard, qui était le fabricant de bateaux, et bon, je suis trop, parce qu'on faisait beaucoup de petits bateaux, pas tellement des grands corps à l'époque, mais il était d'une telle élégance que je veux dire, tout le monde en parlait, quoi. C'est comme de parler d'un grand restaurateur, bon, quand on disait Brémaud, c'était... Brenard, voilà. Donc j'étais complètement baigné dans cette sensibilité, je veux dire, de la Loire. On a vécu évidemment avec quelqu'un qui navigue, qui nous expliquait, qui était extraordinaire. Nous, on naviguait un peu quand même en néophyte, mais on ne pouvait pas ne pas non plus être sensible à la fois à l'espace, au courant et aux lumières. Hein, parce que moi, je rappelle, on a parlé souvent des lumières, des couleurs, y compris par rapport à l'observatoire. Moi, je me souviens toujours de quand j'allais de Langeais à Tours, par le car à l'époque, où il y avait les lumières de la Loire le matin et puis celles du soir qui étaient toujours extraordinaires. Je veux dire, c'est des choses qui marquent, parce que je suis passé aussi par la peinture après. Voilà, donc ça fait beaucoup de...
C'est ce rapport aussi à l'objet qui est intéressant, mais tu parles de l'art, mais il y a aussi des rapports harmonieux dans chaque œuvre qui peuvent presque renvoyer à la dimension de la musique aussi, qui peut être une référence, et que c'est par ce biais-là que tu rentrais aussi dans la question architecturale. Donc là, je dois avancer un petit peu, parce que là, on passe, et après, on va revenir, en quelque sorte. Voilà, on va être ici.
Alors, ça, c'était quelques années avant. Oui, pour revenir, parce que, j'ai un parcours un petit peu atypique, hein, parce que je suis passé par la musique, beaucoup, parce que tu vas être musicien, normalement, mais la musique, la peinture, le théâtre, etc. Enfin, et il y a quelque chose qui m'intéressait, que j'ai découvert très vite, et c'est peut-être grâce à Jean Prouvé, avec qui j'ai travaillé un petit peu à la fin de sa vie, qui disait... parce que c'est lui qui a introduit la notion de composants dans l'architecture, de dire on peut faire l'architecture avec des composants. Et ça n'avait pas été très, très bien compris à l'époque. Et il disait, mais je ne comprends pas, parce que la musique, elle est faite avec 7 notes, et on a fait des musiques différentes à toutes les époques, dans le monde entier, toujours avec les mêmes notes. Et ça m'a beaucoup intéressé, parce que je disais, mais dans l'architecture aussi, on travaille non pas avec des notes, mais avec des figures, des carrés, des ronds, des trucs, etc. Et puis j'ai fait une recherche, après je me suis aperçu qu'on avait 12 sortes de figures, on peut appeler des fondamentales dans nos musiques. Et donc en musique, en réalité, il y en a 7, mais si on met les demi-tons, les dièses, etc., il y en a 12 aussi. Et je trouvais que c'était assez, assez intéressant. Et ce qui m'intéressait, c'est que j'ai fait de la musique, c'est que la musique, on faisait des accords, on faisait des gammes, donc il y avait des rapports harmoniques. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture, j'ai découvert ce fameux rapport harmonique, et il y avait, effectivement, à l'époque, on s'intéressait beaucoup à Le Corbusier, évidemment, etc., qui lui avait son propre, qui avait son moduleur, et tout ça, et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et il se trouve que quand j'ai travaillé avec Jean-Claude Drouin, à l'atelier d'urbanisme, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Jean-Prouvé et beaucoup de gens, on avait travaillé sur l'exposition universelle à Paris. L'exposition universelle ne s'est pas faite, mais ils avaient publié des dessins, des projets, et donc j'avais été au moniteur, c'est comme ça que j'ai eu le premier contact avec le moniteur, porté mes carnets, D'ailleurs, j'y cherche toujours parce qu'ils m'ont pas tout rendu. mais ils me disent, si vous avez un projet, on va lancer les cartes d'argent et le prix de la première œuvre. Bon, j'ai écouté, moi, j'ai fait un petit bâtiment là, qui va faire 100 mètres carrés, une petite commune, c'est une salle de réunion. Il faut l'envoyer, etc. Donc j'ai envoyé le projet, c'est ce projet qui doit être à l'écran normalement, voilà, qui est juste un tout petit bâtiment avec une salle polyvalente, des garages pompiers, etc. Et j'ai eu la mention spéciale du prix de la première œuvre grâce à Renzo Piano. Et j'ai appris après que Renzo Piano, il avait vu que toutes les proportions étaient exactes. Et personne ne savait que j'avais travaillé sur un tracé régulateur. Et ça, ça a été assez déterminant pour moi. Tout ce que j'ai fait après, y compris la bibliothèque, hein, qu'on va peut-être classer, je vais montrer quelques images après, là c'est complexe, mais sur des choses un peu plus simples pour faire comprendre. Mais donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est vrai que là, on vit une époque maintenant, bon, l'architecture, pour beaucoup, c'est une construction, quoi. Quand on parle, quand on imagine la presse, hein, ben voilà, quand on parle d'un bâtiment, on ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on dit c'est du bois paille. Alors c'est magique. J'ai rien contre, hein. Je vais faire peut-être le bâtiment le plus grand en bois paille dans le département à côté, dans l'Oréchère. Donc c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle plus vraiment de ce qui est l'architecture. Hein, c'est la même différence qu'il y a entre l'écriture et la littérature, mais c'est la même chose entre la construction et l'architecture. Donc ça veut dire que l'architecture, elle a quand même un savoir, ses propres règles, ses règles d'harmonie. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, dans le fond, parce que sinon, le reste, bon, c'est vrai. Hein. Voilà. Donc ça a été quelque chose qui a été, on peut continuer, parce qu'on est sur le sujet, donc on peut y aller. Voilà, donc quand on regarde cette élévation, bon, comme ça, beaucoup m'ont dit, hein, oui, c'est très élégant, tout ça, etc. Bon. Mais quand on regarde la relation entre cette élévation et le plan, ça doit être celle d'après, je veux dire, et si tu fais encore celle d'après, voilà, je veux dire, là, alors c'est plus compliqué que ça au final, mais enfin, pour montrer, ça prend pour faire comprendre que chaque élément de la construction répond à une harmonie géométrique qui est absolument parfaite, hein, qui correspond à des rapports harmoniques. Alors il y a le nombre d'heures, mais après c'est quelque chose qui décline, hein, ça devient un peu compliqué. Donc on le voit qu'il y a cette relation, je veux dire, entre le plan et son élévation. Et si je vais encore un petit peu plus loin, parce que je me suis intéressé aussi beaucoup à l'abstraction géométrique, et j'ai pu accompagner notamment une artiste en réalisation sur le changement d'échelle de Vera Molnar, je veux dire qu'elle était une des premières artistes à travailler avec l'ordinateur, et elle était à l'origine de ce qu'elle a appelé le 1% de désordre. Parce qu'elle disait, et ça c'est en rapport aussi avec l'architecture, c'est que dans l'architecture on a des choses qui sont souvent répétitives, on a des trames, on a des choses comme ça, voilà. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui à un certain moment chahute un peu ça, le petit pas de côté, quoi, hein, je veux dire, c'est ça qui va donner du sens. Et ça c'est quelque chose qui est pareil, qui disait, mais je le fais d'une façon intuitive. Mais du coup, ça me donnait, je veux dire, une bonne réflexion pour continuer à travailler là-dessus. Alors, quand on voit effectivement ce que j'avais fait sur Trévaloir, c'est que vous voyez à droite, l'axe de la passerelle, il est décalé. Et quand on regarde le mât et la clôture, il est aussi décalé. Donc c'est ça qui finalement qui va donner du sens, qui va donner de la vie et qui va dynamiser tout le reste. Alors si je montre une autre image, je veux dire celle qui suit, pour montrer comment ça fonctionne sur d'autres projets, j'ai pris comme exemple, parce que ça j'avais déjà eu l'occasion de le montrer, le lien vertical à Chinon. Il y a à gauche mon dessin d'origine, qui est un croquis, donc c'est la relation entre les villes bas et la ville haute dont j'ai parlé, voilà. Mais, et puis à droite, il y a la réalisation, et entre les deux, il y a cette écriture. Mais c'est comme si entre le premier croquis, si on revient à la musique, le premier croquis, c'est vous avez l'idée d'une mélodie ou quelque chose, et dans les deux dessins qui vont suivre, vous écrivez la partition. Et quand vous écrivez la partition, vous pouvez voir qu'il y a tout un rapport harmonique, hein, que j'ai un peu simplifié là, pour faire comprendre, hein, avec tout un jeu, hein, qui part des formes fondamentales et qui donne l'équilibre général. Et si j'ai fait des essais quelquefois, j'ai montré aux gens, j'ai dit, vous voyez, si on met un mètre plus haut, un mètre plus bas, eh ben, c'est pas élégant, c'est pas joli. Voilà. Donc, on peut aussi, si on le ramène à des différences de taille, dans la période suivante, de taille d'objet, de dire voilà, là par exemple c'est intéressant parce que on a un petit meuble que j'ai dessiné donc il y a quelques années, et puis à côté on a ce qu'on avait travaillé avec Hervé sur un château du 18e en Normandie qui est très très repéré pour ses proportions parce que il intégrait aussi tous les rapports harmoniques du nombre d'heures. Je montre un petit peu quel est le rapport entre les deux, et c'est intéressant parce que vous avez un objet et un très gros château. Vous avez quelque chose de notre époque, vous avez quelque chose du 18e, et ça fonctionne. Et là encore, quand je regarde le petit meuble, le fait que le montant, enfin, ce qui le tient, soit décalé, soit pas à l'extrémité, hein, ce qui ferait un meuble assez banal, ben là aussi, ça le dynamise complètement. Et alors là, je vais vous montrer une photo qui, maintenant, alors là, va vous étonner. La prochaine, c'est que je dirais que la pile, c'est le 1% de désordre du coteau de Roche-Corbon. Et quand on parle de Roche-Corbon, ben on ne parle que de la pile, enfin la lanterne, parce que la pile, ça s'en va. On parle de, ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, cette espèce de logique, hein, qui peut paraître comme ça, comme une logique intellectuelle, mais qui est bien au-delà de ça. Et ça, je trouvais ça très, très, très intéressant. Voilà.
Merci. Merci pour ces quelques explications qui sont un peu cruciales parce qu'on comprend mieux un objet que l'on fréquente. Très souvent, on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi on a un rapport, on a une émotion, mais avec ces explications concernant toutes les tracés régulateurs, si on veut dire ça comme ça, et avec les harmonies, on arrive en fait à créer une œuvre harmonieuse comme dans la musique, parce que là aussi on a le même sentiment. On aime quelque chose, mais on ne peut pas forcément l'expliquer, mais très souvent c'est justement ça, parce que les proportions et les harmonies correspondent. Et ça, c'est aussi un élément de cet objet. Bon, peut-être juste revenir un peu en arrière, parce que j'ai zappé quelques belles photos de la finalisation de l'objet. Peut-être tu voudrais encore dire quelque chose par rapport à ça.
Par rapport à... Alors ça, c'est une image. Paradoxalement, j'ai gardé très peu de documents et de photos de cette période-là. Il y a même eu des articles dans l'air qui fait la recherche avec la relation entre l'Observatoire et les autocadres, il y avait plein de trucs, mais je ne pensais pas qu'un jour j'aurais besoin de tout ça et je n'ai pas trop gardé des choses. Mais enfin, j'ai quand même retrouvé cette photo, non, c'est d'avant, qui est intéressante, c'est qui était globalement à la livraison. On voit que l'Observatoire est pavoisé, c'est-à-dire ça a disparu après très vite, alors que ça faisait partie du projet puisque ça permettait de voir de très loin, mais donc de signifier aussi l'entrée de Roche-Corbon de très loin. Et quand on voit le bâtiment, ce qui était intéressant, c'est qu'avec avec cette symétrie, là je continue encore par rapport à ce que tout à l'heure, il y avait cette symétrie, mais il y avait d'un côté un élément qui était complètement plein, que vous voyez à droite, un élément qui était complètement plein, donc qui mettait les sanitaires, tout ce qui était technique, etc. Et puis un élément complètement vitré, qui était une vitrine, donc, symboliquement, puisqu'elle devait montrer, mettre en valeur, en tout cas, les produits locaux. Alors j'avais dessiné les meubles aussi à l'intérieur, donc tout ça, ça a disparu après. Et puis on a gardé ça pendant quand même peut-être une dizaine d'années, je pense. C'est gardé. Et alors après, moi j'ai pas trop suivi, hein, je sais pas, mais donc c'était ça. Puis il y a une autre photo effectivement que j'aime bien, qui est cette photo qui a été prise, une belle photo de Sébastien Andréi, qui l'a pris depuis le coteau. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir des interprétations assez intéressante. Je m'en suis aperçu un peu après. Enfin, j'ai jamais voulu le faire parce que quand on parle d'emblème, on parle aussi d'allégorie, on parle de beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire, mais ça ressemble à un oiseau finalement. On a l'impression d'avoir un oiseau qui est venu se poser au bord de la Loire avec ses ailes et puis la biscotte qui regarde, etc. Donc j'aime beaucoup cette photo parce que pour moi, la Fleur de la Loire, bien, finalement, c'était ça, quoi. C'était ça. Et puis, il y avait aussi tout ce, on le voit un petit peu là, tout ce rapport qui était un rapport un peu scénographique. C'est-à-dire qu'on allait découvrir la Loire, mais on va aller la faire progressivement. Hein, c'est-à-dire qu'on le faisait par étapes. D'abord, on montait quelques marches, et puis on prenait une passerelle. Elle était inclinée, on avait une plateforme. Et puis après, on en prenait une autre, on remontait. Voilà, il fallait tout un cheminement pour arriver à la partie haute. Et là, on avait fait d'ailleurs, enfin, elle a été jusqu'à la fin, il y avait une longue vue avec une petite estrade pour que les enfants puissent voir. Et j'étais encore à Rochecorbon récemment avec quelqu'un qui me disait, mais moi, mes enfants, je les emmenais toujours voir la Loire, l'observer la Loire. Il y avait les gens qui venaient travailler sur les couches, qui travaillaient plutôt sur la géologie, sur les falaises, etc., qui venaient aussi à l'observatoire pour pouvoir observer les différentes strates, etc. Et par rapport aux enfants, il y avait quelque chose qui était amusant aussi, c'est que la forme même de l'observatoire pouvait donner l'impression que ça sortait d'une bande dessinée. Hein, c'était quelque chose qui était quand même qui sortait de l'imaginaire. Voilà. Donc ça c'était quelque chose d'intéressant. Et sur l'image qui normalement vient après, voilà, on parlait tout à l'heure de contrepoint. Donc là, évidemment, il y a l'échelle, on a le premier plan avec le plan de la Loire. Ça, c'est une image aussi au départ. Mais ce qui était intéressant, c'est que le contrepoint s'exprimait sur différentes choses. Il y avait cette opposition entre la massivité du coteau, sa minéralité, donc qui était liée à la falaise. Et puis, il y avait l'observatoire qui était, comme on a parlé un petit peu de folie tout à l'heure, etc., qui était lié beaucoup plus au paysage, donc quelque chose qui était très fin. Donc, il y avait cette opposition entre la pierre, le métal, entre le plein et le vide. Donc, c'est tout ça qui faisait l'intérêt des deux ouvrages. Et puis, il y avait aussi ce rapport au temps. Hein, puisque on avait quelque chose qui était contemporain d'un côté, puis quelque chose qui était le patrimoine de l'autre.
Voilà, après toutes ces explications, on se demande comment est-ce possible que le bâtiment soit disparu. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire, Jean-Yves, une sorte de petit récapitulatif, comment s'est passée cette démolition, comment tu l'as appris, comment ils étaient les échanges, parce que c'est pas seulement sur ce bâtiment en soi, mais ça montre aussi une manière comment on traite aujourd'hui, parfois aussi avec beaucoup de négligence et parfois aussi de mauvaise foi, un bâtiment avec qui a une valeur architecturale exceptionnelle par rapport à l'endroit où ça a été créé, pour l'endroit que ça a été créé.
Alors, on disait tout à l'heure qu'on avait été surpris par la démolition. En réalité, c'est en 2020, je crois, ou 21. Enfin, je venais de terminer l'ouverture de jeunesse à Bucramont. J'avais d'excellents. Ça avait très très bien fonctionné, tout le monde était très content. J'ai très bonne relation avec tous les gens. Hein. Et un jour, on me demande de venir à l'étoile et on me dit : mais ton observatoire, est-ce que tu y tiens ? Vous allez voir Eiffel, puis vous dites : est-ce que ta tour Eiffel, tu y tiens ? Vous allez voir. Enfin, oui, donc. J'ai pris ça un peu pour une boutade parce que moi j'ai aussi posé des questions, pourquoi on me demandait ça, etc. Et puis on m'a dit, bah, parce que bon, on est en train de réfléchir, etc., d'élargir le. Enfin, très bien. Je me demande s'il y avait des projets, pas de projet. On ne connaît toujours pas de projet d'ailleurs. Tiens, je ne sais rien. enfin, pas projet. Donc j'ai pris, bon, j'ai pas pris ça à la légère, mais presque un peu, en me disant, bon, c'est un peu une boutade, peut-être qu'ils vont travailler, puis qu'ils vont dire comment on peut faire évoluer. Parce que les bâtiments, ils sont faits pour ça aussi, hein, ils sont faits pour évoluer, il n'y a rien de figé non plus. Hein, bon. On pouvait très bien garder l'observateur et puis refaire sous les ailes autre chose, hein, construire en bois, construire ce qui était plein, on peut le fermer, ou le bien avant là, on peut, bon. Moi j'ai pris ça un petit peu comme ça. Et puis, quelques temps, peut-être un an après, il y a une autre réunion, mais celui qui m'avait posé cette question n'était pas là, et là je comprends que quand même, on commence à parler un peu de démolition, mais pas franchement. Hein, on commence à dire, enfin bon, voilà, les WC n'étaient pas nettoyés depuis 5 ans, donc on ne dit pas qu'on peut les nettoyer, on dit que c'est un salubre. Il y avait un verre qui était cassé, on ne dit pas qu'on peut le changer, on dit si le verre est cassé, il faut démolir le bâtiment. Ce que chacun fait chez soi, hein, quand il y a un verre qui est cassé, on démolit la maison, hein, ce qu'on fait tout le temps. Non, mais, donc enfin, la discussion, elle était un petit peu de cet ordre-là. Donc voilà, et puis... Quelques temps après, je repasse par là et je m'aperçois que ce qui était l'office du tourisme avait été démoli. Et qu'à la place, il y avait un petit totem là, pour les cyclistes pour pouvoir gonfler les vélos, bricoler, etc. Enfin, c'est un nom particulier peut-être. Bon. Voilà. Et je me suis dit, ah ben finalement, ils ont trouvé la bonne solution. Ils ont gardé bon, les sanitaires, tout ça. Ils ont libéré cet espace. Ça fait un abri pour les cyclistes et qui peuvent réparer leur vélo, donc ça fait une halte dans le cadre de la loi à vélo. Hein, donc, parce que la loi à vélo, ça n'existait pas quand on a fait l'observatoire, c'est devenu après. Donc je me suis dit, bah, finalement, ils ont peut-être trouvé quelque chose. Puis comme il n'y avait pas de projet, je me disais, bah, ils doivent continuer à réfléchir. Hein. Et puis, bon voilà, c'est ça. Et une autre réunion, où là, ça commençait, je voyais que ça commençait à réfléchir, et moi j'ai proposé de le démonter, et de le mettre ailleurs, au bord d'un lac, ou etc. Bon. Il y a une commune qui s'était un petit peu engagée à le faire, donc on en a plus parlé. Et puis, un jour, il y a une réunion sur place, disait, etc., qui dit, ah oui, mais on ne voyait pas ça si grand, etc. Enfin bon, donc je me suis dit, bon, ben, il faut peut-être chercher d'autres solutions, c'est pas gagné, etc. Et à nouveau, je n'entends plus parler de rien. Et il a fallu qu'il y ait cette fameuse... c'est un des circuits dans le cadre d'Archipel que les voisins viennent de voir, parce que moi j'étais pas au courant, hein, je ne savais pas, on m'a dit que c'était là. Et là c'était marrant parce qu'on faisait une réunion de l'AMA à l'agence d'ailleurs, comme ça qu'elle était là. Et avec Sophie, tous les trois, on va voir ce qui se passe. Et on arrive, on a le panneau que vous avez vu tout à l'heure, etc. Et puis une entreprise que je connais par ailleurs, qui était en train de préparer la démolition. Et c'était stupéfait, puis il était mineur, on s'est dit, on va quand même aller prendre un petit verre en face, là. Et puis on s'assoit, et là, alors ça c'est une idée quand même assez marrante, parce qu'il y a des sketchs qui ne s'inventent pas. On s'assoit, on commande un petit truc, tout ça, puis il y avait le restaurateur qui était en train de discuter avec des gens, et tout le monde, tous les gens voyaient bien la mise en place de tout ça, disant, mais qu'est-ce qui se passe, ben, ils vont démolir. Ah bon, pourquoi, etc. On en parle. Et puis il y a le restaurateur qui dit, oh bah oui, on en parle, mais on attendait que l'architecte soit mort. Et je me suis levé. Et donc ça a été évidemment une grosse rigolade. Je veux dire, le restaurateur était un peu gêné, mais enfin bon, c'était très marrant. Mais là, je me suis dit, il y a quand même bon, c'est quand même terriblement méprisant pour l'architecture. Donc voilà. Alors, cela dit, on est repassé depuis. Alors, tiens, oui, tu avais mis la photo que tu as. Ça, c'est intéressant parce que c'est. Voilà. Ça, c'est ce jour-là. Ça, c'est une photo que quelqu'un avait faite d'ailleurs. On est remonté en haut. Vous voyez bien qu'il n'y a rien à salir. Hein, tout est nickel. Hein, ça peut durer longtemps. Il y avait encore des gens qui venaient, alors c'était peut-être pas le même jour, mais bon, qui venaient comme s'ils venaient dire au revoir un petit peu à la voix. Ah oui, c'est intéressant parce que l'autre photo, il y a une autre photo qu'on a prise le même jour avec le panneau, vous voyez, on voit bien que l'observatoire est parfaitement stable, parfaitement propre, on a l'impression qu'il était construit la veille, mais quand je regarde la photo de l'ANR, l'étude après, on a l'impression qu'il est complètement, qu'il est presque cassé la figure. Donc là, on se dit, bah, effectivement, à part le démolir, je ne vois pas très bien ce qu'on peut en faire. C'est terrible, hein, la manière de montrer les... Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai quelques photos de la démolition, parce que ça c'est très joli aussi, une démolition. Hein. Je veux dire, on aurait quand même pu récupérer au moins des espaces. Non, on a tout cassé en deux jours. On n'a même pas pu récupérer un escalier ou récupérer des éléments. Enfin, il y a eu des éléments qui étaient tout neufs, qui se sont dévissés pour les récupérer. On faisait des abris, on faisait je ne sais pas quoi, on faisait des choses. Là, on a tout cassé comme ça en deux jours. Voilà. Mais il y a un bel aménagement depuis, hein, pour pas. C'est qu'il y a quand même deux parasols. Hein. C'est quand même pas mal. Et puis, ils ont quand même investi dans un garde-corps pour ne pas tomber, hein, parce que la dalle, etc. Et puis, il y a aussi de l'archéologie contemporaine, parce qu'on a quand même gardé la mosaïque. Hein, on ne l'a pas montré tout à l'heure, mais dans le travail, c'est ça qui est intéressant. On est passé vite fait quelques images qui étaient, même avant, celles d'avant, parce qu'on n'a pas parlé trop du détail. Mais moi, le détail, c'est ce qui donne la qualité à l'ensemble. Et donc, on a quelques photos ici qui ont été prises, toujours dans les mêmes moments, où on voit on voit cette qualité de détail, notamment sur les ombres portées. C'est très important de voir si on voit la qualité souvent sur les ombres portées, et puis le détail même des escaliers, etc. Et on avait fait une photo justement de la... voilà, c'est une photo en noir et blanc que je trouve très jolie, où on voit justement comment ce travail sur l'architecture était poussé au moindre détail jusqu'à cette petite plateforme qui était toute petite mais qui était sous la rocombe. On aurait très bien pu laisser une dalle béton, quelque chose comme ça. Et même ça, ça avait fait l'objet d'une mosaïque. Hein, ça avait fait un vrai travail. Alors c'est ça qu'on retrouve maintenant qu'ils ont conservé, parce qu'ils vont faire, mais ils ont conservé la mosaïque. Et puis je suis passé, on est passé il y a peut-être un mois, et là on a quand même vu un projet artistique. Une grappe de raisin. Et c'était quand même bien. Si c'est ça le projet, ça valait le coup quand même de démolir l'intervalle.
La question, c'est est-elle plus grosse que celle de Mont-Louis?
Oui, mais toi, tu as du mauvais esprit, toi, moi, je ne dirais pas ça. Donc voilà comment notre patrimoine récent. On peut se poser effectivement beaucoup de questions, et c'est un peu l'objet de ce qu'on va en discuter un peu après. Mais je me suis, indépendamment de cette histoire, je me suis aperçu qu'il fallait en moyenne 70-80 ans pour reconnaître quelque chose. C'est vrai dans l'art et c'est vrai aussi dans l'architecture. Il faut beaucoup de temps pour reconnaître. Ça a été le cas de prouver, par exemple. Hein, on a laissé les choses se défaire, se paupériser. Maintenant, on se dit, mince, c'était quand même pas mal. Et on va mettre des fortunes pour restaurer. La question, on l'avait gardé entretenu, le problème n'a pas été réglé. Donc voilà. Et puis, je vois bien que... Alors, ça, c'est un regard que j'ai vis-à-vis de... Souvent, enfin, des villes, là, pour le coup, que... c'est une culture, je dirais, qui est même générale, qui est une culture française, finalement. C'est qu'on n'aime pas tellement... On aime bien investir, mais on n'aime pas tellement entretenir. Entretenir, c'est pas valorisant. Alors que c'est ça qui est important.
C'est pas budgété.
Et c'est pas budgété souvent, c'est vrai. Alors que ce que tu as fait avec ta bibliothèque, le cadre culturel, quand c'est entretenu, 30 ans après, bah, c'est nickel. Donc on ne se pose pas de problème de savoir si c'est nickel. Alors, je ne généralise pas, hein, quand je dis ça, parce que beaucoup entretiennent leurs bâtiments. Hein, j'ai d'autres exemples partout. Mais j'ai aussi des exemples. On a montré tout à l'heure ce que le prix de la première œuvre. Si vous voyez le bâtiment, vous ne le reconnaissez pas. Ils ont tellement tout, c'est une grande cabane de jardin. Ça ne ressemble plus à rien. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis, finalement, pour détruire l'architecture. Si c'était pour faire mieux, si c'était pour l'enrichir, pourquoi pas? C'est bien, c'est la vie. Mais pourquoi toujours ramener toujours vers le bas, quoi, d'une certaine manière?
Peut-être, je peux demander à Xavier si tu pourrais nous donner quelques chiffres, parce que tu nous as parlé des chiffres tout à l'heure.
Oui.
Et je pense que tout le monde veut savoir de quoi on parle.
Moi, juste avant, je voudrais quand même parler de quelque chose. C'est une question, parce qu'en fait, quand nous avons travaillé sur est-ce que c'était possible, comment ça s'est passé, on a eu des réponses plutôt floues de la métropole. Là, on m'a même dit, on va, vous savez, la règlement, le droit, c'est une chose. On a l'habitude de modifier les façons de faire, on a nos propres logiques. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas dire ce qui ne s'est pas fait convenablement, nous pouvons simplement supputer que ça n'a pas été fait convenablement. Déjà, au niveau du placement du site sous la protection de l'UNESCO, logiquement, nous avons effectivement, enfin là, je vais demander confirmation, mais il y a la mission Val-de-Loire qui est le gestionnaire du site. Alors, évidemment, lorsqu'on lit les textes technocratiques, on peut entendre ce que l'on veut, mais quand même, il apparaît que la mission Val-de-Loire a pour objet de gérer le site, de le protéger comme il doit être, et donc de donner son avis pour ce qu'on peut faire, ce qu'on peut démolir, etc. Là, il semble, d'après nos questionnements auprès des agents de la mission, ils n'étaient pas au courant. La protection de la Loire, elle est également placée sous l'autorité du préfet de région. Normalement, une fois de plus, il aurait dû être questionné pour savoir si oui, si non, il fallait détruire cette œuvre. Donc, nous n'avons pas de réponse absolue. Peut-être qu'il a été questionné, peut-être que le préfet de région n'est pas intéressé, c'est possible, nous n'en savons rien. Parlons des chiffres. Alors, les chiffres. Alors, la difficulté du dossier, du dossier, c'est que le bien appartenait à Rochecorbon. Il avait été fait, vous l'avez entendu tout à l'heure, l'ensemble du conseil était ravi, satisfait, magnifique, etc. En 2017, c'est en 2010, le 22 mars 2017, la commune de Rochecorbon rejoint les 21 communes de la métropole, ce qui oblige à transférer certaines compétences. Et l'Observatoire, alors c'est encore une question qui pourrait être intéressante, est-ce que c'est l'Observatoire, la compétence retenue, c'était le tourisme, la gestion du tourisme, etc. Alors évidemment, il y avait l'office de tourisme qui était abrité sous l'Observatoire. Mais est-ce que l'Observatoire devait rentrer dans la compétence entièrement? C'est une question qu'on peut se poser encore. Alors évidemment, on peut dire oui, quand même, particulièrement parce que les touristes s'arrêtant, montant sur le bâtiment, il avait quand même une logique touristique. Mais enfin voilà, donc c'est quand même, pour moi, c'est peut-être, quand je disais que c'est la consternation qui l'avait emporté au départ, je dirais que bien évidemment, ça a été le premier déclic. Mais quand j'ai analysé quand même les procédures utilisées pour détruire ce bâtiment sans bruit, là j'ai été vraiment scandalisé, j'ai dit là c'est sûr qu'on fait le bouquin, il faut quand même qu'il y ait une trace. Alors quelques chiffres, bon c'est pas des chiffres, c'est pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait la ville, les habitants de Rochecorbon ont payé l'Observatoire 450 000 euros hors taxes à l'époque. Quand il a été construit, on peut estimer que avec l'indice des prix et de la construction, il aurait valu 550 000 quand il a été effectivement transféré. Il a été valorisé lors de son transfert, et ça c'est normal, hein, ne soyez pas affolés, c'était 292 733 euros, tout simplement parce que le bâtiment a effectivement été amorti dans la période, et que le chiffre qui est correspondant au transfert est tout à fait naturel. N'empêche que, on peut dire que pour la métropole, ça a coûté 292 733 euros, et que la démolition a, elle, coûté 43 333 euros hors taxe. Je vous donne les euros presque au centime, parce que ça, c'est les vrais chiffres. Alors je dis, pour la ville de Rochecorbon, c'est une perte qu'ils ont eue de 157 000 euros, c'est-à-dire que les habitants ont payé en trop 157 000 euros, et là, pour la ville de Tours Métropole, la bagatelle de 336 000 euros avant travaux qu'il faut quand même de remise en état de la place, etc., qui ne sont pas comptés dans nos chiffres. Donc c'est une gabegie pour moi, c'est un comportement malsain, et que par ces simples faits, ça mérite quand même de s'intéresser à la chose.
J'aurais encore peut-être deux petites questions à vous poser. Alors, peut-être vous l'avez déjà répondu en partie, mais quelle est la particularité de construire et de conserver l'architecture récente dans un contexte sensible, et qu'est-ce qu'on peut apprendre, si on voit des choses malgré tout un peu positives, de cette histoire de la démolition? Donc deux questions.
Oui, alors c'est une question qui est très difficile à répondre pour celui qui est concerné, pour celui qui est un auteur. Mais ce que je veux dire, c'est marrant parce que j'avais une discussion un petit peu avec Yves Dauge, toujours au téléphone. Parce que bon, il est complètement scandalisé par ça, etc. Mais bon, c'est parce que j'ai dit, mais t'as pas plus faim, parce que moi je suis pas propriétaire, je passe tout. Et j'ai dit, mais tu sais, tout le monde a le droit d'acheter un Picasso, de le repeindre en bleu ou de couper en morceaux, c'est complètement con, mais ça a le droit. Sauf que là, c'est de l'argent public. C'est la différence. Bien sûr qu'on ne peut pas faire. Et pourquoi je vais donner un autre exemple. Pourquoi garder ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu étonnant aussi dans cette histoire. C'est qu'au même moment où on démolissait l'observatoire, on classait, on protégeait, on restaurait une station-service, qui d'ailleurs est très belle, et je suis d'accord pour qu'on la garde. D'accord, ce n'est pas le sujet. D'accord, pour qu'on la garde. Mais je me disais aussi, si on n'avait pas laissé dans l'état où elle était, on n'aurait pas été obligé de mettre autant d'argent, etc. Mais là où ça devient quand même extraordinaire, c'est qu'à une époque où on valorise, enfin, on parle à longueur de journée du développement durable, de l'écologie, de tout ça, et c'est très bien. Moi, je fais ça depuis 40 ans, 45 ans, mais au moment, je veux dire, où ça commence, je veux dire, à rentrer un petit peu dans voilà, tout le monde commence maintenant à être un peu plus conscient qu'il l'était il y a 30 ou 40 ans, quand on fait les problèmes sensoriels. Maintenant, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Il y a des élus, il y a tout ça, etc. Et à ce moment-là, où on s'intéresse à l'écologie, on va détruire l'observatoire, qui est une œuvre écologique, dans la mesure où, comme le rappelle Yves Dauge, je veux dire, c'est cette relation avec un patrimoine vivant et la loi. Et voilà. Et en même temps, on va conserver quelque chose qui est lié à ce qu'on ne veut plus, c'est-à-dire les énergies non renouvelables, le pétrole, etc. Donc il y a quand même quelque chose. Je me dis, on est quand même dans une société où il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas. Enfin, c'est pas possible, quoi. Hein? Je veux dire, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Je veux dire, t'as des choses. Alors, effectivement, par rapport au patrimoine, pourquoi il faut garder, je fais référence d'ailleurs dans le livre à ce que disait Sarfati sur une démolition aussi. Il disait que c'était une paresse, que finalement, c'était un petit peu une rupture quelque part, parce que, je veux dire, l'architecture, ça se transmet, ça. Voilà, c'est quelque chose, on le voit, on a travaillé sur une démolition d'un immeuble avec des artistes, avec photographes, etc., d'un immeuble à Orléans. Bon, l'immeuble, il n'est pas extraordinaire, il est fait sur une dalle que tout le monde a critiqué, évidemment, à l'époque quand ça a été fait, et puis maintenant, au moment de démolir, mais là, il y a 20 ans de plus, c'est plus tout à l'heure, il faut 70-80 ans, moi, c'est beaucoup trop tôt. Là, il y a une vingtaine, il y a une génération de plus. Et là, il ne faut pas toucher, c'est mieux, etc. Et ça peut se comprendre aussi, parce que même si l'architecture, là, pour le coup, n'est pas très intéressante, mais il y a la vie qui a eu dedans. Il y a des gens qui sont nés, qui ont vécu, qui sont mariés, ceux qui sont morts, se retrouver, enfin, il y a toute cette vie. Donc même, vous voyez, même si l'architecture n'est pas intéressante, elle a du sens. Donc, alors, on peut transformer le bâtiment, ça se fait. On commence à restaurer des bâtiments, à refaire les façades, à les isoler, etc. Alors, je sais qu'il y a des choses, qui ne sont pas faciles. Le bruit, tout ça, ce n'est pas facile. Mais enfin, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce qui justifie absolument de démolir? Mais là encore, moi-même, par rapport aux choses que j'ai construites, si je fais un bâtiment industriel, qu'on sait qu'il a une durée de vie de 20 ou 30 ans, parce qu'après, voilà, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais l'observatoire, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça aussi, cette différence. C'est que c'est pas du tout la même chose. Voilà.
Merci beaucoup pour ces échanges. J'ai peut-être la question.
J'insiste juste.
Peut-être, Xavier, un dernier mot avant de commencer peut-être une discussion plus large.
J'insiste juste sur ce qui est choquant. C'est le non-respect des procédures. C'est le non-respect du citoyen. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des habitants qui ont payé cette œuvre. Il y a des habitants qui ont été dans l'obligation de récupérer cette œuvre. Et les deux ont été spoliés par un comportement qui est néfaste. Donc, moi, je vais au-delà de l'architecture. Je dis, si on veut effectivement que respecter l'architecte, les auteurs, etc., bien sûr que... On peut brûler une œuvre qu'on vient d'acheter de Picasso, c'est superbe, on a le droit de le faire. Et on a le droit aussi de dire, peut-être aussi, nous allons démolir l'œuvre de Jean-Yves Barrier. Mais en tout cas, on ne peut pas le prendre comme ça, en étant caché et en expliquant aux gens, avec des collaborateurs qui jouent avec, en mettant une photo du bâtiment, dans un état qui, forcément, moi, si je n'étais pas au courant de l'intérêt de l'œuvre, je me dis, mais cette chose-là, il faut l'abattre au plus vite, c'est épouvantable. Il faut revoir cette photo. Si elle avait été faite qu'une fois, le premier article, on peut dire, le photographe qui a pris la photo n'était pas un spécialiste, c'est possible. Le problème, c'est que pour le deuxième article qui a été fait pour l'invitation aujourd'hui, la presse a eu des photographies bien plus valorisantes à sa disposition, et même dans le premier article, il y avait d'autres photos qui avaient été prises qui étaient de meilleure qualité. Donc là, je dis quand même, il y a excès. Donc, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire? Je ne sais pas, mais en tout cas... Encore une fois, nous ne savons pas, mais nous avons une petite suspicion. Voilà ce que je voulais rajouter. Je suis énervé, voyez-vous.
Merci beaucoup pour ces échanges.